Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence.
Juste deux secondes.
Il y a deux personnes qui ont signé qui n'ont pas pris leur ticket repas pour midi. Donc Garcia Ramirez, Abril.
Ah bah c'est moi.
Ah, Abril, que passa?
Et Mouafo, Chinda, Yves Martin.
Bien, ben la journée est finie puisqu'on a distribué les tickets de repas. Bon, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à l'espace Mendès France pour ces deux belles journées autour des questions d'image. Alors, deux, trois petites choses. Hein. Vous avez remarqué, la parité est à la tribune, donc nous respectons les règles sociétales. Ça, c'est un premier point. Bienvenue à l'espace Mendès France. Merci Christine d'être à mes côtés pour ce lancement. Alors, c'est une journée un tout petit peu particulière, ou ce sont deux journées un peu particulières pour toutes et pour tous. D'abord, de manière générale, pour l'espace Mendès France, recevoir les écoles doctorales, c'est un privilège et des moments un peu particuliers. Je pense que vous appréciez toutes et tous le fait que ces formations doctorales puissent étendre à une interrogation d'ordre plus général que vos spécialités ou vos thématiques, parce que dans cette salle, voici quelques années, il y avait le commissaire au plan Jean-Baptiste Foucault qui rappelait à tout le monde qu'une fois que vous vous êtes spécialisé, votre parcours professionnel de chercheur, d'enseignant ou dans le privé va être amené à connaître beaucoup de rebonds. Et dans cette même salle, Edgar Morin nous rappelait que se spécialiser c'était bien, mais que la seule façon de s'adapter c'était de développer sa culture générale. Donc s'interroger sur l'image, c'est sûrement une interrogation d'ordre scientifique, technique, technologique, mais c'est pour moi avant tout une interrogation qui va irriguer votre sens culturel. Alors le sens culturel, pour moi, c'est un sens qui renvoie à une connaissance des problématiques contemporaines, mais surtout une capacité d'une autonomie, d'un discernement et d'un sens critique. Donc le regard sur l'image, pour moi, c'est une bonne synthèse de ce dont vous aurez besoin. Les premières réunions qui ont eu lieu dans cette salle avec les doctorants, c'était en 1994. Et le titre de la journée, je vous le laisse à votre sagacité, c'est « Y a-t-il une vie après la thèse ?» Cette interrogation, 23 ans après, elle est toujours là. Alors d'ailleurs, je vais faire une interrogation écrite et vous allez voir, on en a pour deux jours. Donc voilà, donc c'est un plaisir de vous recevoir. Vous savez, l'université de Poitiers est à l'espace Mendès France chez elle. Plus de 300 enseignants-chercheurs, étudiants viennent chaque année comme bénévoles pour intervenir dans la maison. Et je vous donne le chiffre de 2016. En 2016, nous avons eu un peu plus de 10 000 étudiants dans nos publics de l'espace Mendès France. C'est un peu plus de 140 000 personnes. Et c'est la seule maison de culture scientifique de France qui a développé cette action auprès des étudiants. Mais aussi parce que je vous ai dit l'importance que nous attachions à la culture générale. Alors, journée particulière parce qu'on reçoit à travers votre présence ce qui fait l'élite d'un pays, qu'on parle de la France ou de celles et ceux d'entre vous qui sont de pays étrangers à l'international. Vous faites partie de celles et ceux qui peuvent structurer l'élite d'une nation et c'est quelque chose d'important. Troisième aspect qui relève de l'originalité et pour moi de la particularité de ces journées, c'est le fait de pouvoir, de manière extrêmement ouverte et pluridisciplinaire, vous offrir un champ d'interrogation, ce que vous allez faire. Et je voulais remercier devant vous Anne Bonnefois, pour qui c'est la dernière journée. Voilà, donc Anne, avec Anne, on a inventé dans cette maison un pôle d'histoire des sciences, qui là aussi, on ne va pas se payer de mots, est unique en France. Et de cette question de l'histoire des sciences, on en a retiré une interrogation double. Quels sont les rapports entre vos recherches et la société? Et deuxièmement, quels sont les rapports qu'une maison comme la nôtre peut nouer avec le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec un tiers de confiance qui fait que quand vous venez parler ici, vous êtes libre de parole et on ouvre au public. Voilà, je finirai là. Donc Anne, merci pour tout ce travail fait. On aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, c'est elle qui a tricoté depuis plus de 20 ans les relations avec les écoles doctorales. Donc merci Anne. Elle est porteuse d'une tradition qui me paraît absolument vitale et essentielle. Voilà, donc pour toutes ces bonnes raisons, vous êtes non seulement les bienvenus, mais j'espère que vous reviendrez dans notre maison. Chère Christine, j'ai essayé de faire très vite parce que je sais que tu es très prise. Madame la vice-présidente, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Alors, c'est toujours difficile de parler après toi parce que tu parles tellement bien. Moi, je suis ici effectivement pour représenter l'Université de Poitiers. Je suis vraiment ravie que Yves-Jean ne soit pas disponible ce matin, finalement, parce que d'abord, c'est toujours un plaisir d'être ici à tes côtés à Mendès. Ensuite, parce que cette journée, elle est organisée dans le cadre de mon école doctorale, si je puis dire, puisque c'est avec les collègues donc, du secteur maths et STIC de Poitiers, de Limoges, donc je suis ravie d'être là. Je suis également ravie parce que c'est sur un domaine qui est mon domaine de recherche. Et puis, enfin, en tant que vice-présidente relations internationales, eh bien, en fait, je voudrais rappeler que plus de la moitié des doctorants de notre école doctorale sont des doctorants internationaux. Donc, finalement, je me sens tout à fait à ma place ce matin avec vous. Je reviendrai déjeuner, je suis obligée de partir, mais je reviendrai déjeuner avec vous pour avoir peut-être un petit peu plus de temps pour discuter avec vous, les thésards, qui est effectivement le futur de nos nations. Et puis aussi avec les conférenciers que je voudrais remercier. Madame Alamel, qui est venue de Strasbourg spécialement pour cette journée. Je voudrais aussi remercier Hélène, Clermont, pour sa participation qui représente ici le côté, on va dire, industriel avec Chanel. Merci beaucoup, j'ai plaisir de travailler avec toi dans d'autres cadres. Merci d'avoir répondu présente aujourd'hui. Yannick Bertoumiot de Bordeaux arrivera un petit peu plus tard. On va voir par ces différentes conférences et par les démonstrations que nous fera François Le Cellier aussi après. Je ne vais pas oublier le local de l'étape. On va donc voir la diversité, effectivement, de l'image aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on dit beaucoup qu'on est une société de l'image. Et on s'en aperçoit bien autour de nous. On est entouré par des images, et en particulier des images numériques. Ces images, elles font l'objet donc de réflexions scientifiques, philosophiques, sociétales. Et donc tous ces aspects-là, c'est particulièrement important de les aborder dans le cadre d'une thèse. Comme l'a dit Didier, c'est vrai que quand on fait une thèse, on devient très très pointu dans un domaine. Mais il faut aussi savoir finalement avoir un regard sur la société et sur le monde de l'entreprise. J'ai assisté ces dernières semaines à beaucoup de réunions dans le cadre de l'Association des universités francophones, dans le cadre également finalement des liens avec les universités colombiennes, dans beaucoup, beaucoup d'endroits, un petit peu partout dans le monde, la question se pose de l'employabilité, comme on dit, des doctorants, et de faire en sorte que ce doctorat, qui n'est pas toujours valorisé au niveau auquel il le mériterait, eh bien, finalement, soit justement bien mis en avant pour les entreprises, et que les docteurs que vous serez demain, eh bien, soient beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement employés et à des postes à responsabilité que vous méritez, puisque, effectivement, vous êtes l'élite de la future élite de nos nations. Donc cette notion d'employabilité, elle passe par effectivement des réflexions autres que des réflexions purement scientifiques, très pointues sur vos domaines. Elle passe par une réflexion sur la société qui nous entoure, sur le monde économique. Elle passe sur l'entrepreneuriat, sur finalement la façon dont vous aurez demain à vous vendre dans le monde de demain, dans le domaine de la recherche, que ce soit la recherche publique ou la recherche privée. Donc des journées comme celle d'aujourd'hui sont des journées particulièrement importantes, et donc je voudrais encore remercier Mendès de nous accueillir, et puis remercier le directeur de notre école doctorale d'avoir pensé à organiser cette journée. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue, je vais laisser la place aux discussions. Merci à tous donc encore une fois d'être présents, et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour le déjeuner. Voilà.
Merci. Donc on va entrer dans le vif du sujet, chère Catherine. Okay. On vous laisse la parole. D'accord. Non, tu la présentes.
Ou je me présente.
Merci. Donc juste bonjour à tous. Juste quelques mots de présentation. Donc notre première conférencière ce matin est Catherine Alamel-Raffin, qui est philosophe des sciences. Et elle dirige le laboratoire d'analyse des sciences et des technologies de l'Université de Strasbourg. Elle fait des recherches sur les images scientifiques, en particulier sur les illustrations produites dans les domaines de la médecine, de l'archéologie, de la paléontologie. Donc je vous laisse la parole pour une conférence sur qu'est-ce qu'une image en science. À la fin de la conférence, vous aurez du temps pour poser toutes vos questions et pour un débat avant le déjeuner.
Bon, Je vais essayer de parler parce que je n'ai pas envie de tenir un micro pendant trois quarts d'heure. Donc merci pour cette invitation, je suis vraiment ravie et un peu triste aussi parce que c'est la dernière journée de Anne Bonnefoy que j'ai côtoyée plusieurs fois à Poitiers. Toujours bien accueillie, toujours un plaisir de venir. Donc voilà, c'est un peu, je suis contente et triste, quoi. Donc, comme vous l'avez dit, Samuel, je suis philosophe des sciences et je travaille depuis vraiment des années sur les images scientifiques. Et plus précisément, j'étudie leur production et leur fonction au sein de la recherche contemporaine. Donc, je ne fais pas d'histoire des sciences. Et aujourd'hui, je vais essayer, en m'appuyant sur mes travaux antérieurs, de vous apporter des éclairages sur ce qu'est une image en science. Alors, ma présentation va s'articuler autour des points suivants. D'abord, je vais revenir en quelques mots sur mes terrains de recherche dans lesquels j'ai séjourné et sur la méthodologie assez particulière que j'adopte pour mes travaux. Dans un deuxième temps, je vous montrerai que même au sein du monde scientifique, il n'y a pas de consensus sur ce qu'est une image scientifique. Je ferai donc un point sur ce que j'appelle la sémiotique spontanée des chercheurs. Et dans un troisième temps, en raison de la polysémie du terme qu'on aura constaté dans le point précédent, je définirai ce que moi j'entends par image scientifique. Et enfin, j'étudierai trois fonctions des images au sein des activités de recherche. Et cette fois-ci, je vais illustrer, je vais prendre des exemples dans mon corpus d'observation ethnographique, mais je vais ne retenir que l'astrophysique, parce que je ne peux pas balayer tous les champs, ça serait trop compliqué. Et ces trois fonctions sont, de ces images pendant la recherche, sont rendre visible, rendre lisible et expliquer et prédire. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui, je ne dirai rien sur la fonction des images dans les publications, parce qu'en fait, moi, j'étudie la production et les fonctions jusque dans les publications finales, les publications scientifiques. Je n'ai pas le temps, tout simplement, mais on peut en discuter à l'issue de ma communication. Donc, premier point, un point sur le terrain et la méthodologie. Donc, bien que philosophe des sciences, je fais de l'ethnographie des sciences. Donc, au lieu d'aller voir des ethnies traditionnelles, moi, je vais voir les scientifiques. Donc, c'est-à-dire que je séjourne plusieurs mois dans les laboratoires et je fais des observations, je mène des entretiens semi-directifs, tout cela, évidemment, dans le but d'étudier la production et les fonctions des images. Donc, j'ai séjourné dans un laboratoire, plusieurs mois dans un laboratoire de physique des matériaux, j'ai séjourné en pharmacologie, en astrophysique, et plus récemment, pour mon HDR, je me suis intéressée aux illustrations scientifiques utilisées dans le cadre de publications scientifiques, pas dans la vulgarisation, en chirurgie, en archéologie et en paléontologie. Donc, je couvre beaucoup de terrains différents. Alors, on va se centrer, du coup, sur l'astrophysique, puisque c'est le terrain que j'ai choisi de vous présenter. Donc, ici, c'est le centre d'astrophysique à Harvard, aux États-Unis. Donc, j'ai séjourné environ 6 mois et j'ai fait 33 entretiens assez longs, en général, avec des astrophysiciens. Donc, je ne savais pas trop s'il y avait des astrophysiciens dans le public, mais visiblement non. Donc, j'ai bien fait de mettre ma diapo. Donc, la principale méthode d'investigation employée dans ce centre est l'étude de la lumière qui parvient des objets célestes. Et donc, la lumière recouvre des rayonnements multiples qui constituent le spectre électromagnétique que vous voyez sur la diapo. Donc, le spectre électromagnétique est composé des rayons, ça va des rayons gamma aux ondes radio, aux rayonnements radio. Par définition, le seul rayonnement qu'on peut voir, ce sont les ondes visibles, perçues par nos yeux. Tous les autres rayonnements, nos yeux ne les perçoivent pas. Et pour les collecter ces différentes longueurs d'ondes, infrarouges, ondes radio, rayons X, gamma, etc., les scientifiques ont conçu de multiples télescopes, soit situés sur Terre, soit embarqués à bord de satellites, comme vous pouvez le constater sur ce transparent. Vous voyez les télescopes en balle. Donc, un même objet céleste peut être étudié dans différentes longueurs d'onde, et voici la galaxie 3C295 en ondes visibles, en rayon X et en ondes radio. Alors, la première chose qui m'a étonnée dans les laboratoires où j'ai été, c'est de constater que les scientifiques n'avaient pas la même définition, non seulement dans la même discipline, mais même dans le même labo. Quand je leur demandais qu'est-ce que c'est qu'une image scientifique, ils ne me donnaient pas la même définition. Donc, c'était assez étonnant. Je vais vous faire un petit panorama, très très court. J'ai choisi trois catégories, mais pour vous montrer où se situe le problème. Donc, les scientifiques ont une conception de ce que je viens de dire, qui variait non seulement entre les disciplines, mais également au sein d'une même discipline, dans le même labo. Et donc, je vais faire ce petit panorama qui ne sera évidemment pas exhaustif. Et ça, je l'ai constaté dans tous les labos où j'ai été. Ce n'est pas propre à l'astrophysique, hein, je pourrais transposer. Alors, premier type de définition, un exemple, est image, tout ce qui est produit par un instrument scientifique qui permet de représenter une portion d'espace. Par exemple, en astrophysique, on parlera d'images recueillies au moyen de télescopes, alors infrarouge, optique, rayon X, etc. En physique des matériaux, en pharmacologie, d'images recueillies avec des microscopes, par exemple la microscopie en électronique à transmission, la microscopie en champ proche, la microscopie confocale, etc. Donc là, l'accent est mis sur la production et sur les procédures instrumentales qui permettent d'aboutir à la réalisation de l'image et aussi sur la dimension spatiale. Et quand je demande plus de précision sur cette définition, et que par exemple en physique des matériaux, je demande si une courbe produite par spectroscopie OG, donc un instrument, est une image, la réponse est unanime, c'est non. On me dit non, c'est pas une image. Et la justification apportée est que l'image ne représente pas dans ce cas-là une portion de l'espace. La réponse est identique lorsqu'on demande si des histogrammes, par exemple en pharmacologie, peuvent être considérés comme des images. Ils sont qualifiés de schémas, de diagrammes, mais pas d'images scientifiques. Donc ils excluent cette catégorie. C'est donc une définition là, très restrictive de la définition des images scientifiques, puisqu'elle exclut bon nombre de dispositifs visualisants. Deuxième type de définition est image. Tout ça, ce sont tirés des entretiens. Tout ce qui est non textuel dans une publication ou sur un poster scientifique. Donc là, l'accent porte ici non pas sur le mode de production, ni sur la dimension spatiale, mais sur le produit achevé destiné à un public. Cette définition repose implicitement sur une coupure radicale entre le textuel et le visuel, coupure qui reste sans doute largement interrogée et qui ne va pas de soi. Cette définition permet d'inclure tous les types de représentations visuelles, allant des micrographies, les schémas d'appareils, les courbes, les histogrammes, les camemberts et même les tableaux chiffrés et même les équations. Certains vont me dire une équation est une image. Voilà, avec ce type de définition. Troisième type, j'en ai pris que trois. Hein. Troisième type de définition repose sur la nature des informations délivrées par les images. Est image ce qui peut délivrer des informations locales ou globales sur une source d'étude supposée. Le critère à l'œuvre dans ce type de définition consiste à la mise en avant des aspects locaux et globaux. Alors par exemple, la spectroscopie en astrophysique permet d'obtenir des spectres, donc c'est des courbes, qui se présentent sous forme de courbes, ne prenant en compte que deux variables, et ces spectres fournissent des informations très précises sur la nature chimique, en général des molécules présentes dans une zone céleste. Ces courbes sont donc considérées par certains astrophysiciens, cette fois-ci, comme des images, qui fournissent des informations précises, donc locales, à distinguer des images qui donnent des informations très globales, comme par exemple une image numérique obtenue au moyen d'un télescope, tel que Hubble, vous avez vu déjà des images d'Hubble, qui délivrera pour eux des informations plus globales. De manière similaire en physique des matériaux, les physiciens opèrent fréquemment une distinction entre les images produites en microscopie en champ proche, microscopie à effet tunnel par exemple, qui donne des informations très locales, vraiment très très locales, quelques atomes vraiment, sur un échantillon, et les images produites avec des dispositifs tels que la spectroscopie OG qui fournit des informations chimiques sur la globalité de l'échantillon. Et là, c'est des courbes. Donc l'accent est mis dans cette définition sur le type d'information locale ou globale que l'on peut obtenir, quelle que soit la forme visuelle que ces informations peuvent prendre. Les courbes sont ici incluses, les schémas sont exclus. Donc en prenant juste ces trois définitions, on voit bien que le champ d'extension de la définition des images scientifiques est vaste. Pour les chercheurs qui souscrivent à la première définition, les courbes et les histogrammes sont exclus de la catégorie des images scientifiques, alors que ce n'est pas le cas lorsqu'on adhère aux définitions 2 et 3. Et pour être plus précis encore, si l'on prend ces trois définitions, il y a quand même un point commun. Qu'est-ce qui reste commun à ces trois définitions ? Il y a quand même un type de représentation visuelle qui est commun, c'est celle-ci. Donc est-ce qu'on va considérer que des images produites avec un instrument scientifique représentant une portion d'espace seraient le prototype des images scientifiques, donc commun à mes trois définitions, et donc à partir de ces prototypes, on pourrait accepter des variations plus ou moins acceptables pour rester dans la catégorie images scientifiques. Et donc la définition que je vais proposer va essayer de mixer un peu les trois définitions. Bien sûr, donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une hétérogénéité fondamentale des conceptions de l'image scientifique, que dans la pratique des scientifiques, finalement, au quotidien, ça ne leur pose pas de soucis. Même s'ils sont dans le même laboratoire et même s'ils ne sont pas d'accord finalement sur ce qu'est une image scientifique, c'est vraiment le point aveugle des scientifiques. Donc cette indétermination notionnelle ne leur pose pas de problème. Mais par contre, pour moi, ça me pose un problème. Parce que moi, je suis censée recueillir des données, je suis censée travailler sur les images. Donc il faut que je sache précisément ce que je regarde, et quand je m'adresse aux scientifiques, ce que j'inclus ou ce que j'exclus de ma catégorie. Je peux pas, sinon je n'y arrive pas. Alors j'ajoute juste en incise que dans les sciences humaines, on a fait un colloque, tout un colloque sur peut-on définir une image scientifique. Il y avait des philosophes, des sociologues, des sémiologues. Je peux vous dire que c'est impossible d'avoir... on n'y arrive pas, je veux dire, à se mettre d'accord sur ce que c'est qu'une image scientifique. Donc moi, j'ai fait ma propre définition que je vais vous donner, et à partir de cette définition, j'ai travaillé sur les images scientifiques, mais elle est assez large. Alors, d'abord, une image scientifique, c'est d'abord une représentation... Alors, c'est une représentation analogique visuelle. C'est-à-dire que l'image est quelque chose, alors papier ou sur écran, peu importe, qui ressemble à quelque chose d'autre, et au bout du compte, c'est vraiment une représentation analogique visuelle. Alors il faut s'entendre sur les termes analogique et visuel, ça c'est assez simple. Donc par représentation, j'entends un objet second, donc différent de l'objet ou du phénomène qui est censé être représenté, matériellement distinct de ce qu'il représente, sans quoi, par exemple, on pourrait dire que je suis une représentation de moi-même. Donc une image est déjà un objet second, forcément. Peu importe le support, mais c'est un objet second. Par analogique, j'entends tout rapport de similarité entre la représentation et le représenté. Et il peut s'agir d'une relation d'isomorphisme, c'est-à-dire que la représentation a la même forme que le représenté, ou alors d'une relation d'homomorphisme, c'est-à-dire que la représentation va conserver certaines propriétés structurelles du représenté. Et là, ça va nécessiter la mise au point de règles régissant et légitimant les choix de certaines propriétés qu'on va conserver et d'autres qu'on va laisser, et des règles de mise, de visualisation des codes. Donc le caractère analogique, contrairement à l'usage courant du terme, n'est pas limité à la ressemblance perceptive. En ce sens, une image graphique comme un histogramme reste analogique puisqu'elle convertit en variables visuelles discontinues des grandeurs numériques selon des règles de proportion. Et la notion de règle de similarité homomorphique me paraît essentielle. Elle permet de saisir le rôle déterminant de l'apprentissage en matière de lecture d'image. Cet apprentissage est bien souvent tacite. Je l'ai vu faire, j'ai vu travailler des chercheurs confirmés avec des doctorants, justement, et très souvent, ça se fait de manière tacite. Certaines règles se sont en effet imposées collectivement de telle sorte qu'elles sont intégrées spontanément par nous à la lecture d'une image donnée. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, c'est la convention de la perspective qui fut formalisée au XVe siècle par Alberti. Ça, c'est une règle, par exemple, de représentation qu'on intègre maintenant spontanément, mais ce n'est pas le cas. D'autres règles de similarité homomorphique sont bien évidemment moins diffusées socialement, sont propres à un domaine, à la physique des matériaux, à l'astrophysique, enfin à des domaines, et en particulier celles que nous trouvons au sein d'une discipline scientifique, évidemment comme l'astrophysique. Donc les images dont je vais parler aujourd'hui sont rarement isomorphiques, car les objets célestes ou les phénomènes étudiés sont invisibles. On ne peut pas voir, par exemple, des quasars ou des trous noirs à l'œil nu. Donc on ne peut pas comparer. Donc le scientifique ne peut pas confronter une image et un objet imagé afin d'établir un degré de ressemblance isomorphique entre l'une et l'autre. En revanche, les images en astrophysique sont dans l'immense majorité des cas homomorphiques, ce qui nécessite pour les interpréter la connaissance et la compréhension des codes qui permettent de conserver certaines propriétés structurelles du représenté. Donc ma définition inclut les images prototypiques, type image de télescope ou de microscope, les courbes, les histogrammes, les camemberts, mais pas les schémas d'appareillage. J'ai exclu ça. Alors maintenant, centrons-nous sur l'astrophysique. Une image en astrophysique résulte en fait de trois éléments. D'abord, les rayonnements émis par une source céleste quelconque, un collecteur des ondes, souvent un télescope, et puis un dispositif imageant, désormais souvent des caméras CCD. Et donc, au cours de mes observations, j'ai dégagé trois types d'images en astrophysique, mais ce que je vais dire là est applicable dans les autres domaines, parce que j'ai remarqué que certaines images sont plus précieuses que d'autres pour les astrophysiciens. Donc, j'ai distingué le premier type d'image, ce sont les images sources. Voilà, celle-là, c'est marqué en dessous. Elles correspondent aux premières images obtenues grâce au télescope. Ici, il s'agit d'une image source réalisée avec le télescope spatial Chandra, donc il est embarqué sur un satellite. Et on peut y voir un jet en rayon X s'échappant de la galaxie Centaurus A. Donc ça, c'est l'image brute, si vous voulez. Deuxième type d'image, ce que j'ai appelé les images retraitées. Elles sont issues des images sources et peuvent prendre diverses formes. Soit des images filtrées, comme c'est le cas, vous voyez, c'est la même image, mais on a enlevé beaucoup de scories, on va dire, d'artefacts, soit des courbes, essentiellement. Donc c'est la même image et on a enlevé certains effets indésirables. Et dernier type d'image, les images de synthèse, elles sont produites uniquement à l'aide de programmes informatiques et il s'agit là d'une image simulée en radioastronomie représentant un nuage de poussière, on reviendra dessus tout à l'heure, les nuages de poussière c'est ça là, autour de l'étoile Vega. Donc l'étoile Vega, elle est en plein milieu. Ces images sont donc des représentations analogiques visuelles homomorphiques qui peuvent être considérées comme des cartes d'interaction entre le rayonnement émis, le collecteur et le dispositif imageant, pour reprendre l'expression de Jana Kink, un célèbre philosophe. Et pour revenir sur ce type d'image, les images brutes sont systématiquement conservées. Elles sont souvent de mauvaise qualité. Voilà, il y a tout un tas de problèmes, mais elles sont systématiquement conservées parce que quelque part, pour les astrophysiciens, et même en physique des matériaux et en pharmacologie, c'est pareil, elles sont le lien entre le phénomène, elles sont le lien avec le réel. Donc des fois, on revient, des années après, notamment en astrophysique, on revient sur ces images sources pour les retravailler, parce que quand on les a traitées, parfois on a enlevé des éléments qui finalement se sont avérés importants. Donc ça, on jette facilement, mais ça, on garde. D'accord ? Donc c'est pour ça que toutes les images n'ont pas le même statut, on va dire, auprès dans la recherche. Alors, maintenant, je vais venir sur les fonctions des images. Première fonction, rendre visible. Donc, la première des fonctions, c'est de rendre visible des objets ou des processus physiques. Parmi les objets d'études étudiés au centre d'astrophysique où j'étais, on trouve ici, et je vais citer des titres de publications en astrophysique sous une forme simplifiée, la représentation de notre galaxie en ondes radio, donc la Voie lactée en ondes radio, la découverte d'un jet en rayon X dans un quasar, l'affirmation de l'existence d'un disque de poussière entourant une jeune étoile HR 4796A, enfin voilà, c'est ce genre de choses qu'ils étudient. Afin de rendre visibles ces objets ou ces processus physiques, les chercheurs ont créé des instruments que l'on pourrait considérer comme des sortes d'organes adjuvants, selon les termes qu'employait déjà Sigmund Freud. Je le cite, Freud, « L'homme surmonte les frontières de la visibilité qui sont délimitées par la conformation de sa rétine. » Pour le dire autrement, à la manière de Michael Lynch, qui est sociologue des sciences qui travaille sur les images, des instruments scientifiques comme les télescopes sont en fait des rétines externalisées. C'est comme si on avait externalisé nos rétines. Sans entrer dans une analyse détaillée du problème de l'observation dans les sciences de la nature, je souhaite brièvement mettre l'accent quand même sur ce point. Rendre visible un objet ou un processus physique suppose donc qu'on dispose des détecteurs capables de saisir une information relative à une source, et le détecteur va rentrer en interaction avec elle. Quelle que soit l'information reçue par les détecteurs appropriés, il faut que cette dernière se présente au terme de son parcours sous une forme humainement accessible, et le mode perceptif qui est privilégié, c'est le visuel. Ceci dit, on a essayé de faire des microscopes auditifs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les informations codées en images, on avait des informations codées en son. Sauf que ça ne marche pas très bien. Apparemment, notre œil est beaucoup plus discriminant que notre oreille. Pour la moyenne des gens, peut-être que des gens ont l'oreille absolue, ils arrivent à être... Donc, on ne peut pas demander à tous les physiciens d'avoir l'oreille absolue. Donc, ils ont laissé tomber. Mais on pourrait très bien faire, je ne sais pas, une représentation tactile. Rien n'oblige de tourner ça, puisque c'est numérique. On peut le tourner, finalement, comme on veut. Ou à l'odorat, si on avait un odorat très développé. Mais bon, il faut bien le dire, c'est quand même plutôt le visuel qui prédomine. Il faut d'autre part que cette information soit fiable. Cela suppose qu'on peut suivre le trajet, parfois très long, entre l'information et l'état final, qui est l'image pour nous. C'est ce que Trevor Pinch décrit dans cette citation à propos de la détection des neutrinos solaires. Les points observés sur l'image finale pour le physicien n'en viennent à signifier la présence de neutrinos solaires que par rapport à d'autres étapes de la détection. Il semble que le processus d'observation se soit affiné jusqu'au point où ce qu'on pourrait appeler les perceptions sensorielles primitives, où le résultat du dispositif d'inscription ne forme plus que le dernier élément d'une chaîne d'inférence. Donc, ce qu'on peut dire, et ce que vous comprenez, c'est qu'on va considérer une image comme fiable, pour la mettre dans une publication, par exemple, quand elle est capable, quand le physicien est capable de contrôler, de comprendre, d'établir toutes les chaînes d'inférence entre la source physique et l'image finale. Il faut qu'ils comprennent tout le processus. Sinon, elle n'est pas fiable, tout simplement. Alors, vous allez voir que c'est compliqué. Parce que ce qui m'a étonné dans les laboratoires, c'est qu'on peut mettre des mois et des mois avant d'avoir une bonne image qu'on puisse publier. Donc, c'est vraiment très compliqué. Donc, pour l'observation, on va distinguer avec Peter Cosso, qui est un philosophe des sciences, ce que je vais appeler la distance physique et la distance épistémique. Entre la source et le détecteur final, et puis l'image. Donc, quelque chose qui est observable au terme d'un grand nombre d'interactions ne repose pas, en fait, sur un grand nombre de lois physiques. La distance physique, en fait, c'est le nombre d'interactions qu'il va y avoir entre la source et le détecteur, puis l'image. Prenez les neutrinos. Les neutrinos sont produits par le Soleil. Donc, voilà, déjà, il y a des interactions. Ils vont voyager. Ils vont arriver sur Terre, traverser la Terre. Donc, tout ça, il y a un certain nombre d'interactions tout simplement physiques qu'il faut comprendre jusqu'au détecteur, etc., etc. Donc là, il faut savoir quelles sont ces interactions physiques. Mais ces interactions physiques, on va les décrire avec des lois physiques. Parfois, il y a beaucoup d'interactions physiques et on n'a pas besoin de beaucoup de lois physiques pour décrire tout ça. Et parfois, c'est l'inverse. Parfois, on a des interactions physiques et on a besoin de beaucoup de lois physiques pour décrire tout ça. Donc, évidemment, c'est assez compliqué. Donc, pour être capable de déterminer la signification des informations produites par le détecteur et finalement sous forme d'image, il faut être en mesure de dégager toutes les interactions constitutives de la distance physique et il faut être en mesure d'établir la chaîne des lois physiques impliquées dans le processus de production jusqu'aux productions de l'image, c'est-à-dire la distance épistémique. Si je prends la distance physique, il n'est pas toujours facile pour un astrophysicien d'en dégager toutes les étapes. Pourquoi ? Parce que certaines interactions parasites peuvent avoir lieu et il s'agit de bien les mesurer et de bien les repérer. Ces interactions sont ce qu'ils appellent des artefacts, des effets indésirables. Par exemple, en radioastronomie, un des problèmes majeurs, un artefact majeur, c'est la présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère tellurique. C'est vraiment un souci. La vapeur d'eau d'origine terrestre émet un rayonnement en ondes radio et de ce fait est aussi enregistrée avec les radiotélescopes. Et il s'agit de bien quantifier ce rayonnement émis par la vapeur d'eau afin de soustraire, mais pas trop non plus, ce type d'interaction aux données finales qui vont produire l'image. Donc ces deux types de distances physiques et épistémiques sont à l'origine de nombreux problèmes. Dès lors, la question fondamentale que se posent les chercheurs en astrophysique, mais ailleurs aussi, peut être formulée, qu'est-ce que je vois réellement sur une image donnée ? N'est-elle pas le résultat d'un ou plusieurs artefacts dus à l'instrument ou au milieu interstellaire ? Par conséquent, lorsqu'un nouvel instrument est créé, l'une des premières tâches des innovateurs consiste à démontrer que les images produites avec le nouvel instrument correspondent bien à un aspect du réel et ne se réduisent pas à des artefacts réels. Je vais prendre un exemple. Dans le laboratoire, dans le laboratoire où j'étais, ils étaient en train de construire le télescope que vous voyez là, maintenant, qui est en fonction. C'est le Sub-Millimeter Array ou SMA. Donc, en astrophysique, la mise au point d'un tel instrument est toujours une entreprise extrêmement délicate. Il a fallu 20 ans dans le cas du SMA. Les problèmes auxquels sont confrontés les astrophysiciens qui conçoivent de nouveaux télescopes sont toujours du même ordre. Le signal détecté avec le nouveau télescope est-il fiable ? Tous les artefacts ont-ils été pris en compte ? Et ceci est directement lié au point que je viens d'aborder, c'est-à-dire la distance physique et la distance épistémique. Donc l'ESMA, là, est un radio-interféromètre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un radio-interféromètre ? C'est un dispositif qui consiste en un assemblage de plusieurs télescopes. Vous voyez, il y a 8 antennes. Là, c'est 8 antennes, dont on va mélanger les signaux afin d'améliorer la résolution finale. Comme tout radio-interféromètre, le SMA est composé donc de 8 antennes, de récepteurs capables d'enregistrer plusieurs fréquences à la fois, d'amplificateurs d'ondes, d'un corrélateur qui n'est d'autre qu'un système gigantesque informatique qui permet de collecter les données transmises par les 8 antennes et de réaliser les images. Et évidemment, le SMA comporte également un dispositif qui permet d'analyser la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère tellurique au moment des observations. Chacune des parties constituant le SMA est susceptible d'engendrer des artefacts multiples et notamment du bruit. C'est pourquoi les scientifiques procèdent à de nombreux tests qui ont pour objectif une chasse aux erreurs impitoyables. Et d'abord, ces tests ont lieu dans des laboratoires, puis on les reproduit sur le site géographique. Vous voyez, c'est à Hawaï, à 4080 mètres, qui a été retenu pour installer le microscope. Donc, je vais pour vous donner simplement une toute petite idée des difficultés, je vais prendre un exemple sur les récepteurs. J'étais là quand ils ont fait les tests. Donc les récepteurs, en gros, c'est le cœur du télescope. Donc il faut vraiment s'assurer que ces tests, que le récepteur enregistre correctement le signal provenant de la source. Alors pour ce faire, les scientifiques ont construit une chambre sous vide. Alors j'avais l'impression d'être en physique des matériaux quand je suis arrivée. Je me suis dit, tiens, je suis pas en astrophysique, il y avait une grosse chambre sous vide. Ils ont injecté un gaz qui est de l'oxygène, du carbone et du soufre, c'est de l'oxysulfure de carbone. La chambre sous ultravide est nécessaire afin d'assurer qu'il n'y ait pas d'autres éléments. Hein. On veut qu'il y ait cette substance-là, il n'y a pas d'autres éléments étrangers. Et ce gaz, OCS, est un gaz qui a déjà été identifié dans le milieu interstellaire. Donc, on a déjà le spectre qui est déjà connu. Donc, les scientifiques, il y avait la chambre sous vide et puis il y avait les antennes, une grande antenne, pointent leur antenne, leur récepteur vers le gaz qui est dans la chambre sous vide et ils comparent le spectre produit ainsi à celui qui devrait normalement obtenir, puisqu'on connaît déjà le spectre obtenu. Quoi. Cela permet par comparaison d'évaluer la qualité de leur instrument et d'estimer notamment le niveau de bruit inclus dans l'enregistrement. La phase suivante consiste à identifier les sources potentielles de bruit et d'artefacts, puis il va falloir tenter de les éliminer afin d'améliorer la qualité du signal. Et rien n'indique, a priori, la marche à suivre pour ce faire, car ces sources peuvent être de nature diverse. Ça va des ordinateurs qui sont dans la chambre à côté, à l'avion qui passe, enfin, ça peut être tout, à peu près tout et n'importe quoi. Donc il y a des choses qu'ils connaissent, donc ils savent faire, et puis il y en a d'autres qui sont résistants, il faut bien les trouver. Certains artefacts sont si difficiles à déceler qu'il faut souvent plusieurs mois pour achever cette phase de traque aux erreurs. L'objectif de ces tests est donc de s'approcher le plus parfaitement possible du spectre OCS idéal et par comparaison de quantifier déjà le niveau de bruit à l'appareillage afin de le soustraire après systématiquement aux données futures. Lorsque la phase de test en laboratoire est achevée, les scientifiques se livrent au même type d'opération, mais cette fois sur le site du télescope, avec des conditions extrêmes, donc très chaud en journée, très froid en hiver, la nuit. La chaleur et le froid déforment énormément les matériaux. Et des fois, on a des bons résultats, ce qui leur est arrivé dans le laboratoire. Et c'est la catastrophe quand on arrive de nouveau sur le site. Il faut tout recommencer. Donc, c'est assez compliqué. Ce qui vient d'être dit quant aux difficultés rencontrées dans le cadre de la fabrication des récepteurs vaut à titre d'exemple pour les autres composants du télescope. Ce qui en ressort, c'est l'aspect extrêmement complexe et délicat de la conception d'un tel instrument. Chacune de ces parties joue un rôle important dans la qualité des données qui seront finalement produites et résultent finalement de compromis effectués par les scientifiques, entre les scientifiques. Alors, d'abord, quels sont les types de compromis ? Par exemple, des compromis institutionnels et humains. Par exemple, la participation, dans le cas du SMA, de ASIA, qui est un institut taïwanais, à partir de 1996. Cela correspondait, de la part d'Harvard, à la recherche de fonds pour les Américains et pour les Taïwanais. Eh bien, ils étaient très contents de travailler avec un centre aussi célèbre que celui d'Harvard. Mais le rapport, et je l'ai vu, entre les deux institutions sont loin d'être toujours cordiaux. Les Américains reprochent aux Taïwanais leur manque de savoir-faire en matière de construction d'antennes. Et donc ça a été à tel point, mais vraiment à tel point, qu'ils ont dû envoyer des personnes de Harvard vivre à Taïwan parce qu'ils n'arrivaient pas à construire les mêmes antennes. Et moi, je leur avais dit, j'ai beaucoup travaillé sur les savoirs tacites parce qu'il y avait des grandes réunions, des heures de réunions pour construire ces antennes. J'ai dit simplement, il y a des choses qui passe tacitement, qu'on ne peut pas dire. Un savoir tacite, c'est, vous avez tous des savoirs tacites. Ce sont des choses que vous avez apprises. Que vous êtes un savoir tacite typique, c'est faire du vélo. Vous savez faire du vélo, mais si vous devez écrire comment faire du vélo et que quelqu'un qui ne sait pas faire comment faire du vélo prend votre recette, on va dire, il n'arrivera pas à faire du vélo. Il faut que vous soyez à côté, que vous montriez. Et moi, je leur avais dit, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont des mauvais scientifiques, c'est parce qu'il faut être là, à côté. Et là, ils ont un nouveau projet avec Taïwan. Ils sont en train de construire un gros radiotélescope au Groenland. Et le chef de projet m'a écrit, écoute, ça nous a vraiment servi. Parce que là, j'ai demandé que chaque mois, tous les chercheurs impliqués dans la construction de ce télescope se voient une semaine. Et ça coûte en avion. Il y en a qui viennent de Taïwan, de France. Et il a dit, ça coûte très, très cher. On m'a dit, c'est horriblement cher, ces réunions. Mais c'est la condition pour que ça marche. Parce qu'on... Ben, ça ne marchait pas hein, avec des visios ou des. Ça ne marchait pas. Il faut travailler ensemble, concrètement, pour que ces savoirs tacites puissent passer. Bon, bref, c'est une incise. Après, des compromis financiers. Un projet comme le SMA est extrêmement coûteux. Le budget de départ était de 40 millions de dollars pour finir à 100 millions de dollars. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû être refaites, justement, parce que ça ne marchait pas. Ces sommes paraissent colossales, il n'en reste pas moins que pour les scientifiques, ils doivent quand même faire des choix sur les parties des télescopes à soigner, et puis d'autres qu'on va considérer comme moins importantes, on va prendre des matériaux moins coûteux, et bon, voilà. Donc au détriment d'autres parties. Par exemple, le dispositif permettant de détecter la vapeur d'eau n'était pas une priorité budgétaire dans le cas du SMA, et un tel choix n'a pas été judicieux, puisqu'il s'est avéré qu'une fois sur le site, il a fallu le refaire complètement, et donc parce qu'il n'était pas assez sensible. Ensuite, il y a des compromis techniques. Il faut savoir qu'il n'y a pas de manière parfaite, alors ça vous le devez savoir, de construire une partie instrumentale donnée. Ainsi, dans un instrument, en général, enfin en astrophysique, il est prudent de limiter les parties susceptibles d'être en rotation, parce que d'abord, elles cassent plus facilement, et en plus, elles génèrent du bruit, un bruit de fond. Mais parfois, l'exigence d'obtenir la sensibilité la plus élevée possible conduit les ingénieurs à proposer quand même des parties en rotation, et ceci faute de mieux, tout en sachant que ces parties seront source de problèmes. Donc chaque choix technique présente des avantages et des inconvénients. Chacune des parties du télescope est susceptible d'engendrer des artefacts ou du bruit plus ou moins constant. Les observations effectuées avec de tels instruments doivent être donc nécessairement tenir compte de toutes ces incertitudes potentielles, l'objectif étant de pouvoir accorder un crédit certain à son instrument. Comme l'a dit quelqu'un qui travaille au SMA, l'objectif est de croire ce que l'instrument vous dit, mais pour cela, vous devez être certain que votre instrument fonctionne comme vous pensez qu'il devrait fonctionner. Et j'espère que vous avez compris que c'est extraordinairement difficile à atteindre. Cet exemple de création d'un nouveau télescope nous permet de comprendre que pour atteindre la visibilité en astrophysique, ça ne va pas de soi. Celle-ci n'est pas donnée, mais construite. Et on peut appliquer aux instruments en astrophysique ce que disait Yana King en 83 à propos des microscopes. On ne voit pas simplement à travers un microscope, on voit avec au travers d'un télescope, on voit avec un télescope. Et dans cette première phase de travail des chercheurs, qui consiste à rendre visibles des objets ou des processus, la technologie et les savoir-faire sont prépondérants jusqu'à prendre le pas sur les savoirs abstraits. Et là, vraiment, tous ces savoirs tacites, c'est vraiment très, très prépondérant. Voici une citation de Dominique Pestre au sujet des instruments. Le développement de l'appareillage quitte le statut d'à côté nécessaire pour devenir vraiment le moteur premier de mouvements scientifiques. Sans ce type de télescope, il y a tout un tas d'informations qu'on ne pourrait pas connaître sur l'univers. Donc voilà, donc vous comprenez que c'est difficile. C'est difficile au point que ceux qui construisent des télescopes regrettent profondément que ceux qui vont s'en servir après, c'est-à-dire les astrophysiciens, ne viennent pas dans les laboratoires voir comment ça se construit, parce qu'on comprend du coup mieux les limites. Parce qu'ils disent, eux, ils vont servir du télescope une fois qu'il est construit, mais ils ne sont pas du tout conscients des limites de l'appareillage, en général. Et donc, ce qui fait des observations parfois erronées, même souvent. Donc voilà. Donc ils disaient, les étudiants devraient venir voir, passer 15 jours, voir comment tous les problèmes qu'on a quand on construit n'importe quel type de télescope, j'ai pris le SMA, parce que c'est compliqué, il y a des et il comprendrait mieux qu'un télescope, c'est quelque chose qui produit beaucoup d'effets indésirables. Donc, passons. Maintenant, la lisibilité. La visibilité acquise, bon, mettons qu'on l'a, penchons-nous sur une autre propriété nécessaire de l'image scientifique. Elle doit être lisible, ce qui, dans un premier temps, n'est que visible. C'est la deuxième fonction de des images en astrophysique. Mais tout ce que je dis en astrophysique est transposable dans les autres sciences. Lisible est un terme qui a de multiples sens. Afin de rendre plus compréhensible ma démarche, je vais recourir à une analogie avec la lisibilité d'un texte imprimé. Un texte est dit lisible quand on est capable de constituer des unités de sens à partir des lettres, des unités élémentaires, pour aboutir finalement au sens global du texte. C'est la construction du sens par le lecteur. Dans le cas de nos images, cela suppose donc la construction préalable par des chercheurs d'un univers sémantique commun afin qu'ils puissent se comprendre. Ils vont très souvent inventer des mots. Ils sont des grands créateurs de mots qui parfois passent après dans les publications. Et un texte est également, alors deuxième sens de lisible, un texte est dit lisible quand son agencement sur son support matériel est tel que la lecture est facilitée. Pour un texte imprimé, il s'agit d'artifices de mise en page, le titrage, les caractères italiques ou gras, les tirets, les puces, les signes de ponctuation. C'est le traitement matériel qu'on applique au support. Dans notre cas, ce seront tous les traitements effectués sur l'image source, au terme desquels on obtient des images retraitées. Donc je vais commencer par la construction du sens. Alors, pour rendre lisible au sens premier une image, il faut identifier les éléments contenus en elle et que cette identification elle-même fasse l'objet d'un accord. Je vais prendre un exemple précis et je vais vous montrer que la lecture d'image est lente et fastidieuse en astrophysique, encore pire en physique des matériaux. Donc, les matériaux, ils passent des heures à se disputer sur ce qu'il y a sur les images. Enfin, à discuter, pas à se disputer. Donc, comment ça se passe en astrophysique ? Alors, l'astrophysicien qui veut travailler sur un objet fait un programme d'observation, donc il va concevoir un programme d'observation pour un télescope donné. En général, ce n'est pas l'astrophysicien qui va mettre en œuvre le programme d'observation, mais une équipe qui se charge du télescope. Même sur Terre, c'est une équipe qui va se charger, donc ça va être des instructions, vous refaites ci, ça, et c'est une équipe sur le télescope qui va faire l'observation, ou alors sur un télescope embarqué, c'est l'équipe qui s'occupe du télescope embarqué qui va faire ce travail. Donc, ils vont récolter les données, le scientifique récupère les données, l'équipe qui est en charge du télescope va enlever les gros artefacts évidents, type par exemple des rayons cosmiques, ça c'est très repérable, et puis ils vont envoyer à l'astrophysicien un fichier de chiffres, c'est numérique, et sous cette forme numérique pour l'instant c'est inexploitable. Donc l'astrophysicien va réduire les données, donc il va encore enlever un certain nombre d'artefacts, de bruits, etc., en fonction de ses attentes, et lorsque ces données sont réduites, il va enfin lire ces images, c'est-à-dire qu'il va devoir donner un sens à ce qu'il voit sur l'image. La question fondamentale, je l'ai dit, c'est qu'est-ce qui, sur cette image, correspond à un phénomène réel. Prenons un exemple d'un astrophysicien qui travaille au département des hautes énergies, au CFA, et on va se transporter dans son bureau. L'astrophysicien est seul devant son ordinateur, et il travaille. Alors, c'est amusant parce qu'ils ne connaissent pas leurs voisins de bureau, mais ils sont tout le temps en contact avec des gens qui sont au Chili, en Europe, tout le temps par mail, mais bon, comme qui travaillent sur le même objet que lui, mais ses voisins de bureau, finalement, il les connaît très peu. C'était assez amusant. Donc, il collabore avec notre équipe sur une observation en rayon X sur les galaxies 3C121 et 3C121-1 à l'aide du télescope Chandra spatial, qui est un télescope à rayon X. Donc, ils ont déjà rédigé une proposition d'article sur cet objet, et celle-ci a été soumise à un référé qui a émis beaucoup de commentaires et de suggestions. Et le référé a notamment demandé que les données obtenues avec Chandra soient comparées à celles obtenues avec un autre télescope à rayon X d'une génération antérieure qui s'appelle XMM. Les informations produites avec les deux télescopes devraient être similaires. L'ancien télescope devrait coller. Donc, un des chercheurs de l'équipe a envoyé l'image produite avec XMM et l'image produite avec Chandra, et notre astrophysicien va tenter de la lire. Et pour lire les images, l'astrophysicien va utiliser de surcroît des données produites avec un radiotélescope, car une galaxie qui émet en rayon X émet souvent aussi en ondes radio, donc il va superposer des données en ondes radio. Alors, voilà l'image. Donc là, vous avez donc là, l'image XMM, image Sandra. Ça, c'est 3C, alors comment ça va avec leur numéro, 3C129-1, 3C129. Et ce qui est en, en blanc, là, ce sont les données de radioastronomie. Ce sont les ondes radio. Et tout le reste, c'est des données en rayon X. Donc, pour stabiliser le sens que l'on assigne à une image ou à des éléments de l'image, c'est la confrontation avec d'autres images produites avec d'autres instruments qui jouent souvent le rôle essentiel. Il s'agit en vérité de constituer un faisceau d'informations convergents vers une même signification, et une telle procédure est au cœur des pratiques quotidiennes des chercheurs, et dans plusieurs articles que j'ai rédigés, j'ai appelé ça l'interinstrumentalité, c'est ce que je vous avais mis avant. C'est-à-dire, l'interinstrumentalité, c'est le fait de recourir à plusieurs instruments en vue d'aboutir à des informations concordantes. C'est bien le cas ici. On a deux télescopes à rayon X, et en plus, on a un radiotélescope avec des données de radioastronomie. Alors, il ouvre les deux images, voilà. Il promène son curseur sur les deux images, et il cherche le pic de luminosité. Donc, ce qui est rouge, ce sont les pics de luminosité de C3C129 et de 3C129-1. Il les trouve sur les deux images, mais les coordonnées célestes correspondant à 3C129-1 ne sont pas semblables. Si vous regardez, là, le pic d'illuminosité est... alors ça, il l'appelle le crocodile. Il lui donne un nom, hein, la forme. Là, ça ressemble vaguement à un crocodile. Et on voit là que le pic rouge, là, par rapport à là, il n'est pas au même endroit. Vous voyez, il n'y a pas de... Ici, il n'y a pas... Dans le nez du crocodile, si vous voyez, il n'y a pas de... C'est juste à côté, il n'y a pas de pic rouge. Donc, il repère en plus une tache. Alors, moi, je la vois sur mon... Voilà, je la vois là. Il repère cette tache-là sur Chandra, une tache rouge au sud-ouest, qu'on ne voit non plus, les coordonnées spatiales, là, on ne la retrouve pas, là. Donc, il se dit... Alors, il écrit. Évidemment, ça ne se fait pas. L'autre astrophysicien est très loin. Il écrit « Il me semble ne pas y avoir de correspondance raisonnable entre Chandra et XMM en ce qui concerne le cœur donc de ce qui devrait être quelque part par là, qui est là, de 3C129-1. Et en gros, là, et même pire encore... La nouvelle source ponctuelle au sud-ouest de 3C129-1, qu'est-ce que c'est ? Une dispersion de faisceaux. Alors ça veut dire que ça serait un artefact instrumental dû au télescope, ou alors une étoile variable. C'est-à-dire, une étoile variable, c'est une étoile qui, comme son nom l'indique, varie, et on ne peut pas tout le temps l'enregistrer. Donc ce qui expliquerait qu'elle ne soit pas là, mais qu'elle soit là. Donc maintenant, il va falloir savoir ce que c'est. Donc, j'ai des kilomètres de mails où ils s'échangent en direct. Donc, ce qui résulte, c'est très compliqué de lire. Donc, aussi effet, lire une image, c'est donner un sens à ce que l'on voit, ce qui se traduit en l'occurrence par le fait d'opérer des choix au sein d'un ensemble de possibles. Ces choix sont déterminés par le contexte, la connaissance du contexte observationnel. Aussi effet, la connaissance des capacités de l'instrument est un facteur essentiel pour lire une image. Il faut également connaître les artefacts qu'il est susceptible de produire. Donc on sait que sur Chandra, par exemple, Chandra, sur les plaques CCD, on sait que tout ce qui est au bord, ça avait été mal conçu. Toutes les données qui sont sur ces bords, il faut les enlever. Parce que, voilà, bon, c'était comme ça. Les attentes des chercheurs, ce qu'ils cherchent, les encyclopédies des chercheurs... personnel, quand je dis encyclopédie, c'est leur savoir sur l'objet. Il y en a un qui connaît bien cette galaxie, il y en a un qui a beaucoup travaillé sur XMM, il y en a un qui connaît bien Chandra, etc., etc. Il y en a un qui connaît bien les données en radioastronomie. Et puis, évidemment, les théories scientifiques connues. Évidemment, elles sont là. Donc, tout ça, après beaucoup de discussions, on finit par se mettre d'accord sur ce que c'est ou ce que ça n'est pas. Donc, c'est assez compliqué. Ensuite, je vais passer à la... Une fois qu'on a donné un sens, je vais passer à la lisibilité dans le deuxième sens, c'est-à-dire la lisibilité d'un texte avec des titres, etc. Et donc là, la lisibilité en astrophysique, ça va signifier sortir les informations pertinentes en effectuant finalement des traitements d'images. Et là, j'ai une belle citation d'Audouin Dollfus, astrophysicien, c'est-à-dire qu'avec le traitement d'images, on arrive à faire des images extraordinaires. pas truquer, ce n'est pas le mot, à sélectionner, à combiner des paramètres, à jouer avec les images pour obtenir des documents de la deuxième ou de la troisième génération qui sont véritablement très spéciales et, qu'on a plus du tout, et qui n'ont plus du tout de rapport avec les images initiales. On a sélectionné des paramètres physiques, si vous voulez. On fait des images de température, de vitesse, de déplacement de la matière, des images de variation des rayons spectraux, des paramètres physiques qui n'ont plus rien à voir avec l'observation directe. C'est en fait une propriété qui est mise en image. On fait ça en astrophysique à tour de bras. Alors, les traitements les plus courants en astrophysique, c'est la soustraction des artefacts, bon, ça vous avez compris, l'amélioration de contraste. Quand on veut voir une petite étoile et qu'il y a une énorme étoile ou une galaxie, on va essayer, on fait des modèles pour enlever la luminosité des autres objets pour voir l'élément qu'on veut voir. La superposition de données obtenues à l'aide de plusieurs télescopes, vous avez vu tout à l'heure les des données de radioastronomie et rayons X, on peut en mettre 3 ou 4 différents, on peut mettre de l'infrarouge, on peut tout mélanger, etc. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, c'est un exemple d'extraction d'informations. Alors au départ, l'astrophysicien dispose d'une image en rayon X, celle-là, d'un jet émis par un quasar. À l'intérieur de ce jet, il a repéré trois noyaux A, B et C où le rayonnement X est plus intense. Et il veut quantifier ce rayonnement de manière plus précise. Donc il a réalisé cette courbe. Elle représente le nombre de photons recueillis en fonction de la distance par rapport au cœur du quasar. Et donc là, on a vraiment une quantification beaucoup plus précise que là. Ça, c'est tiré de ça. C'est extrait de ça. Les rayonnements émis par A et B sont... Et là, il se rend compte que les rayonnements émis par A et B sont pratiquement identiques, alors que là, c'était pas très clairement visible. L'astrophysicien peut clairement conclure que ce n'est plus le cas dans la courbe. Non, là, c'était identique, et là, on voit que ce n'est pas identique. Mais elles sont beaucoup plus... elles sont également... Ce type d'image est beaucoup plus pauvre, car elle ne porte pas sur l'ensemble du jet, mais uniquement sur les points déterminés. En gros, il a tracé une droite, donc ce n'est pas sur l'ensemble du jet, c'est vraiment sur des points tout à fait déterminés. Ces traitements appliqués aux images sources sont précieux, car ils facilitent la lecture des images, dans la mesure où ils visent à ne retenir finalement que l'information pertinente de l'image source. Ceci dit, ces traitements d'images comportent un certain nombre de risques. Risque de perte d'informations en cas de filtrage trop important, ça c'est très courant en astrophysique. Risque de distorsion des informations contenues dans l'image initiale. De ce fait, les astrophysiciens émettent des conclusions prudentes de ce qui se traduit dans leur publication par le recours fréquent à des modélisateurs. Probablement, il s'agirait d'un jet, il se pourrait, etc. Ils sont très très prudents, au point de me dire, je ne sais pas combien de fois, Catherine, tu reviens dans 10 ans, 80% de ce qu'on a dit, ça sera faux. Donc, j'étais bon, vous êtes encourageant. Voilà, donc ils sont vraiment prudents. Voilà. Donc voilà, nous avons vu que les images en astrophysique permettent de rendre visible et de rendre lisible dans les deux sens. Une troisième fonction est également repérable lorsque les images permettent de fournir des explications ou des prédictions. Cette fonction est remplie par des images de synthèse, c'est-à-dire des images produites intégralement par des ordinateurs, des algorithmes, à partir de programmes informatiques. Alors prenons un exemple en radioastronomie. Là, on a un astrophysicien qui a détecté, grâce à un radiotélescope qui se trouve à Grenoble, enfin, au-dessus de Grenoble, à l'IRAM, dans les Alpes françaises, un nuage de poussière autour de l'étoile Vega. Donc l'étoile, ça c'est des vraies observations, hein, si vous voulez. L'étoile est là, et ça, ce sont les images de poussière. Ce nuage de poussière comporte donc deux protubérances, comme vous voyez, constituées de poussière plus dense, et il se demande ce qui peut produire cet effet. Il fait l'hypothèse que ces protubérances seraient provoquées par la présence d'une planète dont la masse serait trois fois celle de Jupiter. Et donc, afin de donner poids à ces affirmations, il a réalisé une image de simulation, parce que pour moi, il y a une différence entre simuler et modéliser. Simuler, c'est vraiment l'étape ultime qui prend en compte, évidemment, les lois physiques, la gravité, la pression de radiation, la masse de l'étoile Vega, la masse de la planète, son orbite, etc., plus tous les facteurs liés à l'observation. Il rentre dedans comme s'il faisait fonctionner le radiotélescope, et il obtient ainsi une image simulée qu'il va dans un second temps comparer avec les observations réelles effectué avec le télescope de l'IRAM, afin de démontrer que l'hypothèse de l'existence d'une planète orbitant autour de Vega constituerait une explication plausible. Donc là, vous avez l'image simulée. Il a extrait de cette image simulée, on voit les deux protubérances. On voit qu'elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais ça, on peut dire qu'en gros, elles ressemblent beaucoup à enfin, elle ressemble à l'image, si vous voulez, à l'image réelle. Donc ça rend vraiment plus que plausible l'existence de cette planète qui aurait la masse de 3 fois Jupiter. Alors les images de simulation ont plusieurs fonctions. Expliquer les processus physiques à l'œuvre dans des observations réelles, c'est le rôle que j'ai, enfin, qu'on voit très très souvent en astrophysique, en physique des matériaux. Si un astrophysicien parvient à simuler parfaitement, mais c'est très long, hein, de faire les programmes, les algorithmes, c'est vraiment très très long, des images obtenues à l'aide d'un télescope, c'est qu'il a su intégrer à son programme tous les paramètres nécessaires pour reproduire les éléments d'une observation réelle. Tous les paramètres, physique, l'instrument, enfin tout, je veux dire, voilà, donc c'est vraiment compliqué, les lois physiques, les conditions d'observation, mais également tous les artefacts instrumentaux ou autres. Pour réaliser son image de simulation, il a dû être capable de décrypter toutes les informations contenues dans une image obtenue à l'aide du télescope. C'est cette chaîne. Il faut qu'il soit capable de décrypter à partir de sur l'image réelle, la source, jusqu'à la production de l'image, de décrypter tout ce qui s'est passé. Pardon. Un scientifique ne parvient à ce décryptage qu'en travaillant par approximation successive. Il réalise une première version de son image simulée et fait varier les paramètres de cette image en la comparant à l'image source, jusqu'à parvenir au résultat souhaité. Dans l'exemple que je vous ai donné, l'image de simulation fournit une explication quant à la présence de 2 protubérances dans le nuage de poussière entourant l'étoile Vega. L'explication est l'existence d'une planète qui orbite autour de Vega. Deuxième fonction de l'image simulée, c'est la prédiction. C'est le cas, par exemple, lors de la construction d'un nouveau télescope. En raison du coût financier d'un tel instrument, vous avez compris, hein, 100 millions de dollars pour le SMF, c'est beaucoup. Les scientifiques, avant de construire, recourent à l'élaboration d'images simulées afin de convaincre leur communauté, leurs pairs, et surtout les financeurs de la pertinence d'un tel objet. Par exemple, avant la construction de Chandra, donc le télescope qui est embarqué à rayon X, la communauté des astrophysiciens a réalisé des images simulées de leurs futures observations. Donc là, c'est pareil. Ils produisent sur des objets déjà connus, déjà observés par d'autres télescopes. Ils produisent des images simulées avec ce qu'ils pensent en tenant compte des facteurs de Chandra et donc évidemment une meilleure résolution et des meilleures informations. Ces images ont été créées en s'appuyant entre autres sur les données collectées par ROSAT, qui est un ancien télescope à rayon X d'une génération antérieure et qui a une sensibilité de qualité inférieure. Ces images simulées n'ont alors qu'un seul objectif, effectuer des prédictions qui seront suffisamment probantes pour convaincre la communauté des astrophysiciens et de leurs financeurs de se lancer dans un nouveau projet. Ce que l'on peut dire, c'est que les images de simulation ont bien une visée prédictive et explicative, puisqu'elles tentent de mettre en image un état particulier de la matière à partir des lois et des modèles éprouvés. Alors pour conclure, je dirais que si les images sont irremplaçables au sein de la pratique de recherche en astrophysique, mais une fois de plus, on peut transposer dans les autres domaines, c'est parce qu'elles permettent de rendre visible, de rendre lisible et prévisible et explicable des objets et des phénomènes physiques qui seraient sans elles invisibles. En ce sens, ces images sont des outils essentiels à l'activité quotidienne des astrophysiciens, mais c'est tout aussi valable ailleurs. Nous ne sommes pas prêts de voir des publications en astrophysique ou dans d'autres sciences sans images. Voilà. Merci.
Merci Catherine, comme d'habitude. Donc voilà ce qu'il vous reste à faire, les amis, hein, les doctorants, produire des images, essayer de comprendre comment ça se produit et les interpréter. Ce qui est troublant, c'est en fait, on dit qu'il peut y avoir des images fausses.
Ah, beaucoup.
Voilà. Donc,
fausses. Et en astrophysique, c'est vraiment, ils conservent vraiment toutes les, et en physique des surfaces aussi, et en les réinterprétant, bah parfois, ou alors pas fausses, des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas mal interprétées, qu'on avait pris pour un artefact, mais c'est vraiment un travail compliqué. Alors en astrophysique, les publications commencent par expliquer comment vous avez traité le bruit, quels sont, alors il y a des pages et des pages d'explications, comment vous avez traité le bruit, quels artefacts vous avez enlevés, quels modèles vous avez enlevés ou utilisés pour par exemple soustraire de la luminosité, parce que justement ce que vous allez dire dépend de tout ça. Votre image ne pourrait être considérée comme fiable scientifiquement que si vous expliquez ce que vous avez fait concrètement. Alors, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est pour ça que avoir une bonne image, c'est souvent des mois.
Mais tu dois avoir un regard critique alors quand tu regardes Science et Vie, etc.
Alors là, moi, je... Ça doit... Ah ben moi, je trouve que la vulgarisation, il devrait montrer ce que c'est. Parce que c'est tellement compliqué, et je pense que ça intéresserait les gens en plus. C'est pas du tout rébarbatif de se rendre compte à quel point une image... Mais en médecine, c'est pareil, hein, des images d'IRM. De tout ce qu'il faut comme contexte pour comprendre ce qu'il y a dans une image de manière le plus plausible possible. Je veux dire, parce que, voilà, mais ça serait bien d'arrêter d'être naïf vis-à-vis des images, alors que dans bon Science et Vie ou ailleurs, on vous colle des images, voilà, ça c'est ci, voilà, ça c'est ça, ça a l'air très simple, mais c'est absolument pas simple, et souvent, après, ça s'avère faux, ou partiellement faux, donc si on comprenait ça, je pense qu'on serait beaucoup plus... Il y a vraiment une éducation à faire de tout le monde, sur les images scientifiques, mais sur les images des médias en général aussi, hein. Sur ce qui est vrai, je pense que c'est très important, et elle est pas faite. Mais par contre, les scientifiques qui travaillent avec les images sont conscients, et quand ils sont référés, ils cherchent la petite bête, hein. Je veux dire, ils savent très bien chercher la petite bête en disant, bah là, c'est quoi, refaites, voilà. Mais sinon, en dehors de ça, c'est vrai que le lambda, enfin le citoyen moyen, n'est pas du tout conscient de ça, pas du tout conscient, quoi.
Non, parce qu'il veut des belles images. Une belle image, ça fait vendre, et puis ça.
Oui, ça n'empêche pas. On peut mettre des belles images, mais expliquer quelque part que ce long parcours du combattant, avant d'arriver à dire, et puis de dire, ils sont toujours très modestes. Hein. Bon, on pense que c'est ça, mais bon, si ça se trouve, dans 10 ans, on pensera que c'était pas ça, en gros. Donc voilà, c'est.
Merci. Oui, j'avais une question concernant votre début de présentation. Alors, vous avez expliqué, vous faites des séjours assez longs en laboratoire. Vous avez 6 mois, je crois.
Oui, oui.
Voilà. Alors, j'avais l'impression que votre rôle n'est pas seulement d'analyser les pratiques des chercheurs, ou d'essayer de comprendre ce qu'ils font, mais en fait de les aider à faire mieux. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous les aidez finalement à produire de meilleures images?
Alors, mon rôle au départ, c'est pas du tout d'aider à faire mieux. Mais il se trouve que quand vous avez... Vous savez, c'est comme l'enseignant qui écrit au tableau, il fait une grosse faute de grammaire, il ne la voit pas. Mais par contre, l'étudiant qui est tout au fond, il la voit. Parce que quand on a le nez sur le tableau, souvent, on est le nez dans le guidon, quoi. Et en fait, moi, au début, ce n'était pas du tout un rôle de conseil, mais je me suis rendu compte que mes questions venues de l'extérieur, mon regard porté vers l'extérieur, par exemple, là, pour le cas en Harvard, alors là, c'est clair. Hein, il m'a dit, mais c'est... Voilà, c'est parce que tu étais là. J'ai beaucoup travaillé sur les savoirs tacites. Donc moi, je soumets toujours ce que je fais aux scientifiques que j'ai observés. Ça, c'est la règle. Hein. Et s'ils ne sont pas d'accord sur des choses, on discute beaucoup. Et sur les savoirs tacites, par exemple, c'est normal, on n'en est pas conscient. Et je disais, ça, c'est super important en science. C'est super, surtout dans la construction d'objets. Et moi, je disais, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne marchera jamais tant que vous ne travaillerez pas ensemble. C'est simple. Et donc, ils en ont tenu compte. Mais mon rôle n'était pas de dire ça. Je n'étais pas là pour donner des conseils. Mais il m'a dit, ah bah, tu sais, Catherine, je me suis fait taper sur les doigts pour le budget, mais ça marche. Maintenant, on se voit toutes les semaines, une fois par semaine, une fois par mois, on se voit une semaine. Et ça va beaucoup mieux parce qu'on travaille ensemble. Parce que c'était, oui, ils sont nuls, c'est chinois. Enfin bon, bref, inversement, c'est américain. Bon, voilà, je passe derrière, on est des meilleurs de ce que j'ai entendu. Mais ce n'est pas ça. On apprend en voyant travailler les autres, bien sûr. Donc voilà. Et puis après, en physique des matériaux, ils ont, pour classer, parce qu'en fait, ils conservent un peu leurs images en vrac. Et ils disaient, c'est vrai, du coup, ils ont, dans le laboratoire où j'étais, ils ont commencé à les classer en images sourdes, en images sources, images retraitées. Et puis la documentaliste, elle m'a dit, ça me simplifie. Parce qu'en fait, ils ne faisaient pas ça comme ça avant. Mais bon, mon but n'est absolument pas de... Il se trouve que le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui reste longtemps, qui pose des questions, qui va chercher, peut-être pas la petite bête, mais comme je ne connais pas, alors je suis obligée de rentrer, et ça les fait. Voilà, c'est très riche pour eux, c'est très riche pour moi. Donc voilà, en général, on reste amis, ça se passe bien.
Et du coup, comment vous êtes perçue quand vous arrivez dans ces...
C'est horrible. Chaque fois, pour moi, c'est... Bon, il faut... Parce que je suis responsable d'un master où je leur fais faire ce genre d'expérience sur 15 jours. Je leur dis, vous découragez pas. Hein. On me dit, alors, on était cobayes, on était... voilà. Et c'est vrai, et je comprends, parce que les scientifiques sont dans leur pratique, et ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais ? Je vais vous donner un exemple. Au centre d'astrophysique, j'y suis rentrée parce que j'avais un ex-beau-frère qui avait travaillé, donc j'ai demandé l'autorisation. Donc le directeur de laboratoire me reçoit très sympathiquement. Il avait travaillé 12 ans en France, il parlait très bien français, donc il m'installe, voilà. Et puis il me dit, maintenant tu te débrouilles. Alors, ok, je me débrouille. Et puis je voulais quand même l'interviewer. J'ai été pendant 6 mois, le dernier jour où je partais, il me dit, oui, j'ai interviewé plein de gens, sauf lui. Oui, je vais te faire l'interview, etc. Et puis, évidemment, il n'a pas eu le temps. Je lui dis, ouais. Et puis, il me parlait tout le temps, il m'écrivait en anglais, etc. Bon, comme convenu, j'ai renvoyé mes travaux. Et je lui dis, je vous renvoie ce que j'ai écrit. Et là, pour la première fois, il m'a écrit en français. Il m'a dit, écoute Catherine, c'est vraiment incroyable ce que tu as vu. C'était lui qui m'a dit sur ses savoirs. Je lui ai dit, mais voilà, il y en a qui sont difficiles à amadouer, hein, je peux vous dire. Parce que c'est compliqué, vous êtes là. Moi, je rêverais d'être la tapisserie, en fait. Mais je ne suis jamais la tapisserie. J'ai mon carnet de notes. Alors, des fois, je tourne le dos, les gens, je ne me formalise pas, prennent mon carnet, regardent ce que je note. Enfin, bon, voilà, il y a des choses. Les interviews, je les renvoie systématiquement. Alors, quand je retranscris, je retranscris ce que j'entends. Et comme moi, en français, souvent, je ne mets pas les négations. Le style parlé est beaucoup plus libre que le style écrit. Et alors, quand ils voient en anglais, ah non, je ne dis pas I wanna. Alors, je dis, ne vous inquiétez pas, je vais modifier. Ce n'est pas le sens, c'est la forme. On a tous des tics de langage. Ah non, je parle pas comme ça. Mais c'est vraiment compliqué. Et avant de se faire, c'est toujours de l'appréhension. C'est toujours c'est compliqué. Il faut que je me sorte de ma coquille parce que personne ne m'a. Et puis en astrophysique, dans les laboratoires expérimentaux, il y a des choses à faire. Vous passez plus inaperçu. Vous êtes près d'une paillasse, ils finissent par vous oublier. Mais en astrophysique, les gens, ils sont que devant leur ordinateur. Ils tapent, ils font. Alors, ce que j'ai fait un premier séjour, j'ai repéré une victime, je dis bien une victime, et pendant 3 semaines, il a parlé à voix haute, j'ai enregistré 8 heures par jour, ce qu'il écrivait, il parlait à voix haute, ce qu'il faisait, tout ce qu'il trafiquait sur son ordinateur. J'ai cru qu'on allait venir dingue tous les deux, j'en pouvais plus, et lui non plus d'ailleurs, mais c'était pour moi le seul moyen de comprendre vraiment les mails qu'il envoyait, ce qu'il fabriquait, parce que sinon, qu'est-ce que je décris ? Il affiche une image, il tape, et puis voilà. Donc, 3 semaines à parler, 8 à 9 heures par jour, je peux vous dire que la pause de midi, on partait l'un par là, l'autre par l'autre par là, j'en peux plus. Et puis, bon, voilà. Donc, c'était le seul moyen pour moi de rentrer dedans. Alors qu'en physique des matériaux, c'est beaucoup plus simple, ou en pharmacologie, parce que les gens sont actifs, ils peuvent m'expliquer en faisant, c'est quand même... Alors en pharmacologie, j'ai eu beaucoup de soucis, je ne donne pas beaucoup d'exemples, parce qu'il y a des brevets, il y a les ligues qui protègent les animaux, donc je ne peux pas montrer d'image sur les souris, je ne peux même pas donner le nom des molécules, ni rien du tout, je ne fais jamais de choses sur la pharmacologie, parce que je ne peux rien dire. Pour dire, telle molécule a fait ça, je dis, ça vaut pas la peine, quoi. Mais je comprends. Il faut qu'il y ait une relation de confiance. Donc, ils m'ont donné leur confiance. C'est compliqué pour eux que je diffuse même dans une autre arène ça. Je le fais pas. Je m'y tiens strictement. Je veux dire, c'est vraiment, j'ai jamais dérogé. Sinon, sinon ça va pas.
Oui. Pour nous en tant que chercheurs ou futurs chercheurs, on va dire. L'image pour nous, c'est juste un moyen pour montrer ce qu'on veut prouver, quoi.
Oui.
Est-ce que d'après votre étude, une image, on doit s'intéresser à autre chose à part l'aspect égoïste, genre ça montre ce que je veux. Est-ce qu'il y a autre chose à essayer de montrer dans une image
scientifique? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que les images, elles sont toujours, quand on essaie de montrer ce qu'on veut, c'est toujours des éléments de preuve. Pas une seule image ne peut pas être une preuve. Il faudra toujours qu'il y ait plusieurs images, des courbes, etc., pour que finalement, c'est comme un faisceau. Vous faites une corde, ce sont des fils, et après, elle va être plus ou moins solide. Après, évidemment, les chercheurs vont me dire... les images, je vais choisir la plus... Parce que j'ai aussi une partie sur qu'est-ce que c'est qu'une belle image. pour un chercheur. Alors en physique des matériaux, il me dit la belle image, eh bien c'est celle où il y a le moins d'artefacts. Enfin, c'est la seule que j'ai en fait. Donc je suis content. Mais en astrophysique, on peut faire, vous l'avez compris, beaucoup beaucoup de choses. Et donc ils disent, on va choisir, en astrophysique, ils sont très libres au niveau des couleurs, etc. Donc ils vont jouer là-dessus, beaucoup jouer là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'ils disent. Ils disent, quand un autre chercheur, je ne parle pas de la vulgarisation, va regarder une publication, la première chose qu'il va regarder, c'est les images. Donc pour attirer son regard, pour lui donner envie de lire ma publication ou notre publication, je vais faire en sorte que mon image soit belle. Donc il y a des critères esthétiques. Alors après, l'esthétique, ça c'est un peu chacun, mais voilà, ils essayent de jouer là-dessus. À travers les couleurs, à travers voilà, la mise en forme, les contrastes, le choix des gammes de couleurs souvent. Mais bon, voilà, c'est pas facile. Donc il y a vraiment ça. Genre,
mais on ne peut pas genre, énumérer certaines, comment dire, certaines caractéristiques qui doivent exister dans une image, genre honnêteté, honnêteté, objectif et autre chose, quoi.
Oui, l'image quand elle est mise dans la publication, vous avez la description de tout ce que je vous ai dit, quels sont les artefacts qu'on a enlevés, comment on a traité l'image, avec quel logiciel, comment ça a été fait. Donc quand elle est mise, tous ces éléments doivent vous permettre de comprendre si votre image est fiable. Ceci dit, il y a des effets qu'on repère tout de suite, de honnêteté. Un jour, je me souviens, en physique des matériaux, les images sont toujours souvent carrées dans les publications. Et puis j'en vois une qui avait l'air rectangulaire. Enfin, voilà. Je me dis, tiens, c'est curieux. Bon, voilà. Donc je vais voir le chercheur, je dis, pourquoi t'as publié une image rectangulaire ? Il me dit, ah ben, simplement parce que sur le reste de l'image, il y avait des choses qui n'étaient pas bien physiquement. Vous voyez ? Ouais. Donc voilà, il a recadré son image parce qu'il savait que s'il mettait en dessous, ça ne passerait pas. Bon, ceci dit, ce qui était sur le haut de l'image était justifié, etc. Mais voilà, par exemple. Et les référés ont l'œil. Hein, je veux dire, vraiment, ils appuient là où ça fait mal. Hein, je veux dire. Parce que, par exemple, en physique des surfaces, quand vous faites de la microscopie en champ proche, vous avez un échantillon qui doit faire la taille d'une puce de téléphone. Et l'image, cette puce de téléphone, c'est un univers quand vous êtes au niveau de l'atome. Et donc, évidemment, ils vont choisir les zones, les toutes petites zones où c'est beau, enfin, où c'est bien physiquement. Et chaque fois, les référés disent, attendez, c'est une toute petite zone de votre échantillon, qu'est-ce qui garantit que c'est valable pour le reste de l'échantillon ? Faites-nous, montrez-nous que cette toute petite zone, eh bien, ça se passe bien pareil dans le reste de l'échantillon. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Mais bon, il y a des critères esthétiques. Attirer le regard de son collègue, on va dire.
Merci.
Bonjour.
Bonjour.
C'était juste pour rebondir à propos de votre remarque sur le fait d'analyser les images, le fait de les lire autrement. Mm-hmm. Donc vous avez dit que la population ou les citoyens X n'ont pas vraiment la culture, on va dire, de voir...
Alors, sauf peut-être vous, parce que vous êtes un peu plus dedans.
Non, mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'on n'est pas que dans des images scientifiques.
Non.
Donc voilà, dans la vie, on va dire, hors laboratoire, on est confronté à des images dans les médias, etc. Et donc, vous avez dit que peut-être les citoyens, on va dire, X, et moi, je peux, par exemple, être un citoyen X, donc j'arriverai... Je ne vois pas, si vous pouvez nous éclairer sur ce point-là, comment on peut lire une image dans les médias, par exemple, autrement. Parce que je vous donne un exemple, peut-être une photographie que tout le monde connaît ici, qui est très connue, par exemple, celle de la fille au Vietnam brûlée en napalm. Ça, on la connaît tous, j'imagine. Et donc, à part, on va dire, quelques émotions, quelques sentiments que ça peut provoquer cette image-là chez n'importe quel citoyen, hein, qu'il soit X ou autre, j'ai du mal, on va dire, à la lire ou à l'analyser autrement. Mm-hmm. Donc, si vous pouvez juste mettre, on va dire, quelques points sur cette question-là.
En fait, les images comme celle-là, c'est un bon exemple, elle a été choisie parce que pour son pouvoir émotionnel. Lire une image comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendre sensible au fait, bon, que le journaliste, le photographe a choisi ça, mais qu'ailleurs, quel était le contexte? Alors ça nécessite de chercher des informations sur où ça a été pris, est-ce qu'il y avait d'autres personnes, pourquoi il a de comprendre qu'en fait peut-être de mettre en regard, est-ce qu'il y a eu une catastrophe ce jour-là, vraiment il y a eu 100 personnes et finalement personne n'a été pris en photo sauf cette petite fille qui avait l'air encore vivante, et donc de mettre d'allumer un signal d'alarme sur les journalistes. Les journalistes choisissent toujours les choses qui vont nous vendre, en fait. Et en fait, il faut chercher des informations ailleurs, tout simplement, pour lire toutes ces images. C'est vraiment quelque chose qui est indispensable, en général, pour les médias. Parce que sinon, on vous fait passer des vessies pour des lanternes. Genre, c'est simple. Et c'est vrai qu'avec Internet, moi, j'ai plein d'étudiants, c'est sur Internet, c'est vrai. Mais non, c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est vrai. Il faut croiser. Le principe, c'est de croiser les informations. Sur ce moment-là, le moment où a été photographiée cette petite fille, qu'est-ce qu'on, je sais sur ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Et après, vous pourrez prendre... Je vais prendre un autre exemple qui n'a pas forcément à voir avec les images, mais pour vous dire que les médias... Je dis les images, mais je dis les médias en général. J'ai un étudiant qui a travaillé sur les simulations numériques du réchauffement climatique en prenant simplement le Gulf Stream. Si le climat se réchauffe, que va devenir le Gulf Stream, etc. Lui, il était physicien, il faisait que des simulations de formation. Donc, il s'est intéressé à l'époque, il a trouvé 10 scénarios faits par simulation numérique de ce que deviendrait le Gulf Stream. Enfin, bref. Donc, et de l'impact sur le climat. Sur ces 10 scénarios, donc des publications physiques que lui comprenait, je veux dire, moi, je comprenais rien. Sur ces 10 scénarios, il y en a 3 catastrophiques. 5 qui disaient on ne sait pas, on n'est pas en mesure de dire quoi que ce soit, et 2 qui disaient ça ne va pas se réchauffer, ça va se refroidir. Et après, il a pris les médias, Le Monde, un journal espagnol et un journal, je ne sais plus, anglais, je ne sais plus lequel, et il a regardé ce qui passait. À votre avis, qu'est-ce qui passe? Les 3. Sans parler des autres, sans jamais évoquer les autres. Donc là, c'est pareil, je veux dire, peut-être que la guerre du Vietnam était quelque chose de brûlant. Cette image, elle a été choisie. Est-ce qu'elle est représentative de ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Donc il faut croiser, je veux dire, les choses. Il n'y a pas d'autre moyen de faire. Croiser les informations. Et je trouve qu'on n'a aucune éducation aux médias, à Internet, et que moi-même, on peut se faire prendre. Je ne dis pas les jeunes sont stupides et, moi, je veux dire, et nous, on est géniaux. On peut se faire prendre. Le truc, c'est de croiser maximum d'informations et puis se faire son idée. Toutes les théories du complot, là. Moi, j'ai plein d'étudiants qui sont là-dedans, qui pensent que les avions qui passent nous envoient des neurotoxiques pour nous décérébrer, qui pensent, mais qui sont sérieux, en plus, qui viennent de cursus scientifiques. Je dis, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Croisez les informations. Une fois que vous aurez croisé les informations, ne prenez pas seulement certains sites. Prenez. J'avais fait une expérience il y a très longtemps. C'était dans le cadre, dans notre vie, j'ai fait un débat de sciences éducation, éducation à la citoyenneté. On a pris des sujets d'actualité brûlants. Le port du voile, il y avait quoi? Le dopage, il y avait la parité, etc. Enfin, des sujets à l'époque assez virulents. Et on a pris les élèves, on les a répartis l'euthanasie. On les a répartis de manière aléatoire. Ils devaient trouver des documents, la guerre au Kosovo aussi, des documents, par exemple, pour l'euthanasie, les argumentaires de ceux qui sont dans les médias pour l'euthanasie, et de l'autre, ceux qui étaient contre. Et après, on faisait un débat. Alors, évidemment, ils disaient, oui, moi, je ne suis pas d'accord, je suis pas contre l'euthanasie. Non, peu importe. Tu cherches des documents dans les médias, tu te débrouilles de ceux qui sont contre. Sur la guerre au Kosovo, et non, dans nos médias, on disait, c'est pas bien, là. On leur a demandé de chercher le point de vue serbe. Et après, on a fait des débats. Et ben, je peux vous dire que vous devenez beaucoup moins naïfs en général. Quels sont les acteurs qui défendent ou qui ne défendent pas l'euthanasie, par exemple? Ceux qui n'étaient pas vraiment d'accord, c'est ceux qui devaient le mettre en pratique. Souvent, les croyants d'abord, ceux qui devaient le mettre en pratique, les infirmières, etc., qui n'étaient pas forcément d'accord pour faire ces gestes-là. Enfin, et le dopage. Est-ce qu'il y a des arguments pour le dopage? Pareil, comment ça, vous nous demandez de chercher des arguments pour... Ben, je dis cherchez. Et c'est ce qu'on devrait faire, en fait, spontanément, chercher, quand on a un fait, chercher, ben on se dit, ben là, visiblement, c'est dans ce sens-là, c'est chercher l'autre point de vue, histoire de croiser les points de vue, pour les images, pour les médias, les textes, les radios, etc., pour tout. Mais on n'apprend pas à le faire.
Et c'est dommage. Merci.
Voilà.
J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur les sujets tacites. Donc vous avez dit que voilà, il y a beaucoup de choses tacites. Que je pense que d'ailleurs, lorsque vous avez demandé parfois à certaines personnes de définir une image, on a dû vous dire, une image, c'est une image.
Oui, encore.
Et donc, compte tenu de ça, je me demandais comment sont financés ces travaux-là, pourquoi il y a des gens qui se sont dit un jour, tiens, on va s'intéresser à la notion d'image scientifique, c'est important, on va mettre de l'argent là-dedans. Quel est le contexte qui a poussé ces recherches-là, puisqu'en général, ce qui est évident, comme c'est évident, on ne s'y attarde pas.
Oui, alors ce qui est évident, alors nous on est en philosophie, enfin moi je suis philosophe, mais bon, et en philosophie, on est très souvent, en philosophie des sciences, on est très normatif. On dit, oui, les scientifiques, ils font des hypothèses, et puis ils vont tester les hypothèses, et puis après, en fonction, ils vont garder au vagin. Sauf que quand on est un philosophe et qu'on va dans les laboratoires, on se rend compte que c'est pas vraiment comme ça. Ça part, c'est beaucoup plus foisonnant, ça part souvent d'un effet indésirable. Donc c'est intéressant de voir comment la philosophie des sciences a sa légitimité, parce qu'elle étudie, c'est un regard sur les sciences, donc voilà, depuis qu'elles existent, quoi, de voir comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, là, dans ce que je m'en rends compte, c'est que sur les histoires de savoirs tacites, je suis beaucoup intervenue, parce qu'en fait, il faudrait cultiver ces savoirs tacites. Quand une personne part dans un labo, parfois, c'est tout un pan de savoir qui s'en va. Dans le laboratoire où j'étais en physique des matériaux, il y avait une microscopiste qui était... Elle avait des savoirs tacites énormes, mais qu'elle n'était même pas capable de passer, parce qu'elle n'est même pas consciente de les avoir déjà. Elle est partie. Il y en a eu un jeune qui était très diplômé, très tout ce que vous voulez. Les publications du laboratoire ont chuté. Parce qu'elle, elle avait la capacité de lire. C'est comme les radiologues. Vous allez voir un radiologue, un médecin. Ils ont tellement l'habitude de voir des radios qui vont tout de suite détecter l'anomalie. Et le jeune, peut-être que, son regard. Mais ça se fait que sur le tas. Donc, il y a beaucoup de choses sur les savoirs tacites. Je pense qu'il faudrait aussi appareiller les directeurs de recherche et les doctorants. Parce que moi, je leur ai fait aussi une conférence là-dessus. Parce qu'en fait, en France, en tout cas à Strasbourg, Harvard pareil, on a un directeur de recherche, on a des gens qui veulent faire des doctorats, et en fait le plus célèbre des directeurs de recherche prend en gros le meilleur doctorant académiquement, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça, et on se pose pas la question des personnalités, ce qui fait que vous avez des doctorants qui ont besoin d'être beaucoup encadrés. Et quand il tombe sur un directeur de recherche qui est bon, lui, qui fait, qui n'encadre pas, c'est la catastrophe. Inversement, vous avez des doctorants qui ont besoin de liberté, et quand ils tombent sur quelqu'un qui est tout le temps sur leur dos, je dis, mais il faut réfléchir à tout ça. Parce que si vous voulez que ces savoirs tacites vraiment importants passent, il faut que les personnalités se marient bien. Moi, j'ai vu des catastrophes en physique des matériaux. Un jeune doctorant lui a donné un sujet, c'était un grand, grand professeur. Et alors, il faisait ses manies, puis il faisait ses panies. Parce qu'en physique des matériaux, c'était à Strasbourg, donc j'y étais pendant sur 3-4 ans, j'ai été tout le temps fourré là-bas. Et ça ne marchait pas. Alors, on l'accusait, il ne savait pas faire ses échantillons, il ne savait pas faire... Bon, bref, ça a été épouvantable, psychologiquement. Résultat des courses, il a réussi à montrer que le sujet était infaisable. Et sa thèse, ça a été de montrer pourquoi c'était infaisable. Mais vous imaginez ? Et en plus, il avait un doctorant pas facile, un directeur de recherche pas facile. Quoi. Voilà, donc je leur disais, il faudrait que dans le système éducatif, on a des gens, des types. Moi, j'ai été observée en tant qu'enseignante dans une autre vie. On a des styles éducatifs, des styles pédagogiques. Tout le monde n'est pas assorti à tout le monde. Souvent, par exemple, dans les quartiers difficiles, il vaut mieux des enseignants très cadrants. En revanche, dans les quartiers up, il vaut mieux des enseignants, ce qu'ils appellent démocratiques. Parce qu'on obtient des meilleurs résultats, c'est tout. C'est pour les élèves. C'est pareil au niveau du doctorat. Il faudrait réfléchir à assortir pas seulement le niveau académique, les personnalités, pour que ces savoirs tacites se passent du mieux possible, tout simplement. Parce que sinon, s'il y a une fracture, ça passe pas. Ça passe pas. C'est simple, il y a une perte de... Et ces savoirs tacites, c'est des choses qui sont très très importantes. Et c'est en faisant ce genre d'études qu'on en a pris conscience. Parce que, en fait, les scientifiques, ils ne vont pas vous dire « j'ai des savoirs tacites ». C'est en les observant, parce qu'ils ne sont pas capables de le dire. Comment je fais du vélo ? Bon, d'accord, mais au-delà de ça, comment je fais vraiment ? Donc c'est quand vous êtes extérieur que vous pouvez les voir. Il y en a des visuels, il y en a des olfactifs, il y en a des manuels, il y a tout un tas de savoirs tacites, et vous pouvez les observer de l'extérieur. Et pour qu'ils se passent, comme le compagnonnage, comme les artisans. C'est ça qu'on fait quand on a un artisan avec un apprenti, c'est ça qu'on passe. Et il faut un minimum s'entendre, sinon ça ne marche pas, ça je vous le garantis. Alors je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question.
Je voudrais que vous reparliez à nouveau de vos séjours en laboratoire. Ouais. Vous avez présenté vos séjours dans le laboratoire d'astrophysique, en physique de matériaux, en pharmacologie. Et un peu pour prêcher pour ma paroisse, je me demandais, avez-vous déjà essayé d'entrer dans un laboratoire de mathématiques pures ?
Alors, j'ai une collègue qui a fait une thèse de la même sorte d'ethnographie de laboratoire en mathématiques pures. Moi, j'aimerais bien. Rien ne m'arrête. Je risque d'avoir les mêmes. C'est plus facile dans les laboratoires, on va dire expérimentaux, que dans les laboratoires parce que. Le prix à payer de rentrer en contact, de s'insérer, est lourd. Alors maintenant, puisque je suis en fonction, il faut que je dégage du temps. Voilà, c'est super compliqué. J'ai pu faire l'illustration scientifique, ça c'était passionnant, parce que j'ai eu un CRCT. J'ai eu 6 mois. Je peux pas. Parce que pour s'intégrer dans un laboratoire, il faut y être le plus longtemps possible, tout le temps. Si j'y vais entre 2 cours, 2 heures, et puis une après-midi, ça va pas. Ça va pas. Il faut que j'y sois. Pour de bon, je veux dire, sinon j'y arrive pas, je veux dire, c'est pas la peine. J'aimerais bien faire d'autres domaines, ça, c'est très riche, c'est difficile, mais c'est riche, on va dire, pour moi et pour les autres, enfin, j'espère.
Ben voilà. Merci beaucoup Catherine, ouais. Comme d'habitude. Merci.
Merci.
Donc voilà, c'est la pause déjeuner. Donc, il y a un peu... Vous pouvez laisser vos affaires dans la salle va être fermée. Après, tu as des choses à préciser ?
Alors ben, concrètement, donc, pour tous les doctorants inscrits, le repas est au restaurant universitaire Roche d'Argent que vous trouverez pas très loin. Les locaux peuvent vous y guider. Google Maps aussi peut vous y guider.
Ah non, je vais pas boire. Non, je vais boire tout à l'heure.
Pour les invités, par contre, restez avec moi.